Chapitre 19. L'âme s'éclaire pour voir si elle doit poursuivre son défaut dominant, directement ou indirectement. Nous allons étudier, chers lecteurs, trois choses. La doctrine ordinaire des maîtres sur le défaut dominant, l'opportunité plus ou moins générale de cette doctrine et le moyen d'y suppléer dans le cas où l'on ne s'en accommoderait pas. Commençons par la doctrine ordinaire appelée du défaut dominant. Voici ce que nous dit à ce sujet, après l'ensemble des maîtres, l'auteur du combat spirituel. L'ordre veut que vous vous attachiez à détruire la passion qui vous a toujours le plus troublé. C'est ce qu'on appelle défaut dominant. Coupons le tronc de l'arbre et toutes les branches sécheront. Tuons le chef et l'armée se dispersera. Attaquons le cœur et les veines seront frappées. Oui, le défaut dominant, voilà en principe le grand objectif de la mortification. Il est consolant de savoir qu'en mortifiant un ou deux défauts principaux, on détruit tous les autres. Mais quel est-il notre défaut dominant? Problème délicat. Pour résoudre cette question, on peut réduire d'abord aux trois concupiscences générales, ou tout au plus aux sept péchés capitaux, tous les défauts que nous pouvons avoir. Cette remarque simplifierait considérablement le problème. Tout reviendrait en effet à savoir si vous êtes plus porté à l'orgueil qu'au plaisir, ou au plaisir qu'à l'avarice, ou à l'avarice qu'à l'orgueil et au plaisir. Point que vous pourriez éclaircir par l'artifice suivant. Si ce qu'à Dieu ne plaise, vous veniez à perdre courage en la bonne voie, quelle est la passion qui vous enchaînerait avant tout? Vous sentez évidemment un côté faible chez vous et une passion dominante. Voilà sans doute l'ennemi. De même, si on vous traitait tour à tour d'orgueilleux, de gourmand, d'envieux, de colérique, d'avare, de sensuel et de paresseux, vous seriez évidemment plus disposé à vous défendre sur un point que sur un autre. Parmi ces défauts, cherchez bien celui dont vous auriez le plus de peine à vous disculper. Vous trouverez votre défaut dominant. Ou encore, voyez ce qui vous trouble le plus dans vos confessions, ce qui vous déplaira le plus au moment de la mort. Mais n'oubliez pas que, pour la plupart, le défaut dominant est une résultante de tous les vices, à savoir une grande sensualité cachée sous un orgueil très subtil. Il ne faut pas croire que le défaut dominant se montre dans toute sa laideur en chacun de nous. Tel paresseux aura à peine l'air négligent. Tel sensuel ne paraîtra que délicat. Tel ambitieux passera seulement pour ami des grandeurs, et ainsi de suite. Il faut, au contraire, d'un petit défaut habituel conclure à l'existence d'un vice caché, d'une concupiscence mère, puis étudier les bons moyens d'amortir cette concupiscence. Heureux celui qui peut ainsi diriger tous ses combats contre une seule concupiscence, il sera plus vite corrigé. Un moyen généralement bon pour connaître ce qu'il faut le plus mortifier en soi, c'est de consulter un confesseur qui nous connaisse bien. Une fois que vous savez quel défaut domine en vous, on vous conseille d'étudier ce que les maîtres disent de ce défaut, de ses effets, de sa nature, et voici pourquoi cette étude doit être profitable. Nous avons dit qu'il fallait s'habituer peu à peu à la mortification. Nous dirions maintenant qu'il faut harceler sans cesse le défaut dominant, commençant par attaquer les points où il est moins redoutable. Ainsi, un paresseux pourra s'exercer et se lever exactement et même au premier signal, ou bien à faire ces exercices avec application et sans délai. Or, comment reconnaître ces petits côtés du défaut sans y avoir été rendu attentif par une étude éclairée ou par les avis d'un homme de Dieu? Il faut donc, premièrement, vous exercer à la mortification en général. Deuxièmement, découvrir à quelles racines premières tiennent vos principaux défauts. Troisièmement, étudier cette racine pour savoir l'attaquer dans ses petites pousses et ses jeunes bourgeons, en attendant de la piquer au cœur. Il importe également de se choisir une vertu dominante, c'est-à-dire une vertu plus désirée, mieux cultivée, recherchée avec une ardeur toute spéciale, et cette vertu doit être l'opposé du défaut dominant. Cet avis nous est donné par l'auteur déjà cité. Nous reproduisons ici ses propres expressions. Si vous voulez devenir solidement vertueux, l'ordre que vous devez observer est que d'abord, vous vous attachiez à détruire la passion qui vous a le plus troublé et qui vous tourmente encore présentement davantage. Remarquez bien ce présentement. Et qu'en même temps, vous travaillez de toutes vos forces à acquérir dans un éminent degré la vertu contraire à cette passion prédominante, car possédant une vertu aussi essentielle, vous obtiendrez facilement toutes les autres. Telle est la conduite ordinaire des maîtres sur le défaut dominant. Il nous paraîtrait téméraire de suspecter le bien fondé de cette doctrine, mais autre chose est de prétendre qu'un moyen est en soi mal choisi, et autre chose de voir s'il est facile à pratiquer par le grand nombre. Plusieurs tempéraments sont assez bien tranchés pour être reconnus et déterminés. Un plus grand nombre d'autres sont tels que 10 médecins d'égale force les envisageraient différemment. De même en est-il du défaut dominant. Pour ceux qui n'ont pas à craindre l'illusion à l'égard de ce défaut et qui sont moralement sûrs de le connaître en réalité, la doctrine que nous venons de voir est sage, opportune et doit donner de grands résultats. Pour ceux, plus nombreux, pensons-nous, qui n'arriveront jamais à connaître vraiment leurs défauts dominants, elle a l'inconvénient de faire porter à faux bien des coups, de décourager et de prêter à plus d'une déception. Les défauts sont comme certaines maladies. On croit les connaître dans leur vraie cause et après avoir essayé de s'en guérir, on voit qu'on s'est trompé. Une manière équivalente en soi et plus utile à beaucoup de combattre notre ennemi capital consiste à l'attaquer sous toutes ses formes et dans tous ses retranchements, ce qui se fait en s'exerçant tour à tour à toutes les vertus. Impossible en effet que de cette manière il puisse échapper. C'est la méthode employée pour les maladies par d'excellents médecins. Plutôt que de risquer leur coup en s'acharnant sur un point particulier, ils fortifient et purifient tout le corps, augmentant la vitalité générale et par là combattent efficacement toutes les maladies cachées. Je ne sais pas trop si je suis plus fiévreux ou plus rhumatisant ou plus tuberculeux. Je vais soigner l'ensemble et, par une hygiène sérieuse, j'atteindrai sûrement mon infirmité principale. Nous ne cacherons pas nos sympathies pour cette méthode et nous croyons pouvoir appliquer le même procédé général au traitement de nos défauts. Ainsi, sans détourner les âmes qui se connaissent de suivre pour l'examen particulier leurs défauts dominants, nous avons donné et nous donnons comme plus généralement opportun l'examen particulier sur la vertu de chaque mois. Ce système fondé sur l'expérience ayant pour patron Saint Alphonse de Ligorie nous croyons inutile d'en montrer plus longuement la suffisante valeur, voir en l'introduction l'exposé de notre méthode. Quant à ceux que la présente méthode ne satisferait pas, qu'ils s'examinent tour à tour sur les 7 péchés capitaux, leur passion dominante sera sûrement atteinte par ce facile et efficace procédé. Résolution. Exposer à mon père spirituel la manière dont je poursuis la destruction de mes défauts.